Chapitre 8. Les noces de l'agneau. Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Luc 14, versets 16 à 17. Heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 9. Le souper est le dernier repas de la journée. Dans cette parabole, il y a trois appels au souper. Cette parabole ne doit pas être confondue avec les appels au dîner de Matthieu 22, versets 1 à 7. Le dîner est le repas de midi. Dans la parabole invitant au dîner, on apprend que ceux qui donnèrent l'appel furent traités méchamment et tués, et que même le fils du roi fut tué. Le roi qui avait ordonné l'appel détruisit ses meurtriers et brûla leur ville. Cette parabole d'appel au dîner, montrant le sort de ceux qui ont d'abord rejeté cet appel, représentait bien ce qui arriva à ceux qui rejetèrent l'évangile du Christ et le tuèrent ainsi que ses apôtres. Le Seigneur envoya contre cette nation des armées qui détruisirent ses meurtriers et brûlèrent leur ville, Jérusalem. L'appel au souper. Cet appel au souper de la parabole fait sans aucun doute référence au festin de noces de l'agneau. Une bénédiction est prononcée sur ceux qui sont appelés au festin de noces. Le festin de noces suit le mariage. Les noces de l'agneau se produisent avant qu'il vienne, car, comme nous l'avons déjà vu, à son retour, Christ reviendra du mariage. Luc 12, verset 36. Cet appel au festin de noces, alors, doit être le même que le message du premier ange d'Apocalypse 14 et la proclamation de temps du dixième chapitre, déjà mentionné. Comme cela est rapporté par Luc, ce premier appel au festin va à « ceux qui avaient été invités ». Quels sont ceux qui ont été conviés ? Ceux qui avaient entendu et accepté l'évangile du Christ. Ils font profession d'aimer le Christ et d'aimer sa deuxième venue, la pleine réalisation de leur espérance. Pourquoi l'appel n'irait-il pas d'abord à eux ? Comme il était nécessaire que l'évangile fût d'abord prêché aux Juifs qui avaient les Écritures et prétendaient attendre la venue du Messie, Acte 13, verset 45, de même le message du retour du Christ fut d'abord présenté à ceux qui prétendaient être ses disciples et aimer son apparition. L'appel à ceux qui avaient été conviés. Le premier appel au souper étant fait à ceux qui avaient été conviés, il doit aller aux églises. En fait, la proclamation de la venue du Christ, à partir de l'année 1833 jusqu'au printemps de 1844, a été faite dans les églises et, dans une assez large mesure, fut supportée par les ministres de ces églises. La première publication de William Miller de son point de vue sur la venue du Christ fut faite dans un journal baptiste de Brandon, Vermont. Son œuvre et celle de ses associés furent faites en grande partie, jusqu'en avril 1844, dans les bâtiments d'églises ou des salles obtenues par les églises de l'époque. Frère Himes parle ainsi de l'œuvre de frère Miller jusqu'au printemps 1844. Il travailla parmi tous les partis et toutes les sectes, sans interférer avec leur organisation ou leur discipline, estimant que les membres des différentes dénominations pouvaient conserver leur statut et en même temps se préparer pour l'arrivée de leur roi. Frère Himes, en parlant de son œuvre unie à celle de Miller, ajoute « La plupart des ministres et des églises qui ont ouvert leurs portes à nous et à nos frères qui annoncions la doctrine adventiste collaboraient avec nous jusqu'à la dernière année, l'année 1844. » Portes ouvertes pour le message. Concernant son œuvre et la nature de celle-ci, William Miller a déclaré « Des portes se sont ouvertes devant moi pour proclamer cette doctrine de la seconde venue du Christ parmi presque toutes les confessions, de sorte que je n'ai pu répondre qu'à une petite partie des appels. Dans chaque endroit où je suis allé, les membres les plus pieux, les plus dévoués et pleins de vie des églises acceptaient le plus facilement les vues proclamées, tandis que le professeur de religion mondain, le pharisien, le bigot, le fier, l'orgueilleux et l'égoïste, se moquait et ridiculisait la doctrine de la seconde venue du Christ. Concernant la nature du message adventiste, on peut dire la même chose de lui que Merle d'Aubigné a dite de la Réforme. Elle a été accomplie au nom d'un principe spirituel. Elle proclamait avoir pour professeur la parole de Dieu, pour salut, la foi, pour arme, le Saint-Esprit, et avait, par ces mêmes moyens, rejeté tous les éléments mondains. Une puissante vague de réveil. La nature des réveils qui suivirent la proclamation du message adventiste est ainsi décrite par Fleming, pasteur de l'église chrétienne de la rue Casco, à Portland, dans le Maine. L'intérêt suscité par ces, William Miller, conférences est d'une nature la plus réfléchie et sans passion, et bien que cela soit le plus grand réveil que j'ai jamais vu, il comporte le moins d'enthousiasme passionné. Il semble avoir la plus grande emprise sur la partie mâle de la communauté. Voici ce qui produit l'effet. Frère Miller prend simplement l'épée de l'esprit, dégainée et nue, et applique son tranchant sur le cœur nu. Et il coupe. C'est tout. Devant le tranchant de cette arme puissante, l'infidélité tombe et l'universalisme meurt. Les fausses fondations disparaissent et les marchands de Babel sont dans l'admiration. De tout ce que les temps modernes ont été témoins, il me semble que cela doit être ce qui se rapproche le plus des réveils apostoliques. Une expérience à Richmond, Maine. Comme illustration de l'œuvre de réveil qui alla de pair avec la prédication de la doctrine adventiste, nous allons citer le rapport de quelqu'un qui était activement engagé dans ce mouvement. En parlant d'une réunion trimestrielle tenue à Richmond, Maine, représentant 30 églises baptistes Free Will, du libre arbitre, il dit « Alors que j'entrais dans le lieu de culte, frère Rollins, qui était assis à côté de la chaire à l'extrémité de la maison, se leva et dit « Frère White, vous trouverez un siège ici près de moi. » Après le sermon, on pouvait faire librement des remarques, et j'ai librement parlé de la vie chrétienne et du triomphe du juste à la deuxième venue du Christ. De nombreuses voix s'écrièrent « Amen ! Amen !» et la plupart des gens de cette grande congrégation étaient en larmes. Près de la fin de cette réunion, après avoir obtenu mon consentement, frère Rollins se leva et dit « Frère White, qui est assis à ma droite, prendra la parole à la maison de réunion Reed ce soir, sur la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez, frère, et écoutez pour vous-même. Nous avons suffisamment de place pour vous accueillir tous. Venez, frère, cela ne fera de mal à aucun d'entre vous d'écouter une présentation sur ce sujet. » Il savait fort bien que la plupart de ses frères quitteraient leur réunion dans le village, feraient 5 kilomètres pour m'entendre, et que leur session d'affaires prévue serait interrompue. Et il en fut ainsi. Les 3/4 des pasteurs et presque tous les délégués sortirent, et la maison de réunion Reed fut bondée à une heure précoce. Mon sujet était Matthieu 24. L'Esprit de Dieu me donna une grande liberté. L'intérêt était merveilleux. Comme je terminais avec une exhortation aux chrétiens de se consacrer pleinement et d'être prêts, et aux pécheurs de rechercher le Christ et se préparer pour la venue du Fils de l'homme, la puissance de Dieu vint sur moi à tel point que j'ai dû me soutenir en me tenant à la chair de mes deux mains. L'heure était solennelle. Alors que je présentais la condition des pécheurs, perdus sans Christ, je les invitais en pleurant, répétant plusieurs fois « Viens, pécheur, et sois sauvé lorsqu'il paraîtra dans sa gloire. Viens, pauvre pécheur, avant qu'il ne soit trop tard. Viens, pécheur, pauvre pécheur, viens !» L'endroit était très solennel. Les pasteurs et les gens pleuraient, certains à haute voix. À la fin de chaque appel aux pécheurs, un gémissement général était entendu dans toute l'assemblée. J'étais resté debout en expliquant le chapitre et en exhortant pendant plus de 2 heures, et ma voix devenait rauque. J'ai cessé de parler, et je pleurais à haute voix sur ces gens chers avec une intensité de sentiment connu seulement de celui que Dieu a appelé à prêcher sa vérité aux pécheurs. Il était 9 heures du soir, et donner la liberté aux autres de parler aurait fait poursuivre la réunion jusqu'à minuit. Il était préférable de conclure avec le sentiment profond du moment présent, mais pas avant que tous aient eu l'occasion de se mettre du côté du Seigneur. J'ai ensuite demandé à toutes les personnes dans la salle qui voudraient se joindre à moi en prière, et celles qui souhaitaient être présentées devant le trône de miséricorde, pour qu'elles puissent être prêtes à rencontrer le Sauveur avec joie à son second avènement, de se lever. Tout le monde se leva dans cette grande maison, comme j'en fus informé par la suite par différentes personnes. Après une brève réunion de prière, la séance fut ajournée. Le lendemain matin, je suis retourné au village, accompagné par au moins 7/8 de cette réunion trimestrielle baptiste Free Will. Chacun disait combien la réunion à laquelle ils avaient assisté le soir précédent avait été glorieuse. Demande pour le message dans d'autres lieux. Pendant la pause, les délégués et les pasteurs m'invitèrent à me joindre à eux pour s'arranger sur les dates où je pourrais parler à plusieurs congrégations membres de cette réunion trimestrielle et qui avaient des lieux de culte spacieux. C'était alors la mi-février, et il fut décidé qu'il ne restait pas plus de 6 semaines de bon traîneau, donnant aux gens une bonne occasion d'assister aux réunions. 12 des lieux les plus importants furent sélectionnés pour mon travail de ces 6 semaines. Je devais donner 10 conférences à chaque location, ce qui m'obligeait de parler 20 fois par semaine. Cela ne me laissait qu'une demi-journée par semaine, qui était généralement très nécessaire pour faire les des centaines de convertis. Les réveils et la conversion de centaines de personnes suivaient partout la prédication de la doctrine adventiste, et c'était surtout le cas en s'approchant de la fin de l'année juive 1843, 21 mars 1844. C'est pendant cet hiver que l'auteur entendit parler, dans son village natal, de Victor, New York, pour la première fois sur ce sujet. Et bien qu'âgé de seulement 12 ans, j'acceptais, pour autant que je la compris, la foi en la seconde venue. L'impression sur le peuple était en effet solennelle, non seulement dans les réunions, mais partout. Victor n'était à l'époque qu'un village de 200 habitants, mais la campagne environnante était très peuplée. Il y eut 500 convertis à la suite de cette série de réunions tenues dans ce petit village. Témoignage de l'annuaire méthodiste. Quant à la puissante vague de réveil qui suivit la proclamation adventiste, nous trouvons dans l'annuaire méthodiste. En 4 ans, de 1840 à 1844, 256 000 conversions eurent lieu en Amérique. Ce qui était vrai en Amérique était tout aussi vrai dans d'autres pays où l'appel fut donné. Une force toute puissante accompagnait la prédication, et partout des âmes étaient converties. Comme le premier appel au festin de noces fut donné aux églises, à ceux qui avaient été invités, il fut propagé par eux à tous ceux qui voulaient venir et partager le salut attendant le peuple de Dieu. Que le message fût prêché, prié ou chanté en mélodie adventiste, le puissant mouvement de l'Esprit de Dieu accompagnait l'œuvre. Enfant prédicateur en Suède. À cet égard, on remarquera comment le Seigneur introduisit la proclamation dans les pays où la loi interdisait la prédication de tout ce qui était contraire à l'Église établie. La Suède était un de ces pays. Là, le Seigneur utilisa de petits enfants pour introduire l'œuvre. La première de ces manifestations fut pendant l'été 1843 à Eksjö, dans le sud de la Suède. Un jour, une petite fille âgée de seulement 5 ans et qui n'avait jamais appris à lire ou à chanter, chanta correctement un long cantique luthérien de la manière la plus solennelle, puis avec une grande puissance proclama « L'heure de son jugement est venue » et exhorta la famille à se préparer à rencontrer le Seigneur, car il allait bientôt venir. Les non-convertis de la famille supplièrent la miséricorde de Dieu et trouvèrent le pardon. Ce mouvement se propagea de ville en ville, d'autres enfants proclamant le message. Le même mouvement parmi les enfants se manifesta, dans une certaine mesure, en Norvège et en Allemagne. Oui, je devais prêcher. En 1896, alors que je donnais des réunions dans 17 endroits différents de la Suède, je suis passé par plusieurs lieux où les enfants avaient prêché en 1843, et j'eus l'occasion de parler avec ceux qui avaient entendu leur prédication et avec des hommes qui avaient prêché quand ils étaient enfants. J'ai demandé à l'un d'entre eux « Vous avez prêché le message adventiste lorsque vous étiez jeune ?» Il a répondu « En effet, oui, j'ai dû prêcher. Je n'avais aucune idée en la matière. Une puissance vint sur moi, et je dis ce que ce pouvoir me contraignait de dire. » Bokis et Valbom à Örebro, en Suède. Dans le comté d'Örebro, ce travail se propagea jusqu'à ce que des personnes plus âgées fussent poussées à proclamer le message. Alors les autorités civiles, incitées par les prêtres de l'église établie, arrêtèrent 2 jeunes garçons, Valbom, âgé de 18 ans, et Ole Bokist, âgé de 15 ans, disant qu'ils en feraient un exemple public. Ils fouettèrent leur dos nu avec des tiges de bouleau et les jetèrent, avec leurs plaies saignantes, dans la prison d'Örebro. Lorsque ces blessures furent guéries, ils les firent sortir de prison et leur demandèrent « Allez-vous cesser de prêcher cette doctrine ?» Bien qu'ils les battent la deuxième fois avec des barres, ouvrant de nouveau leurs blessures, ils ne purent obtenir pour toute réponse que « Nous prêcherons la prédication que le Seigneur nous ordonnera. » Grâce à l'intercession d'une célèbre dame paroissienne d'Orebro, le roi Oscar Ier dit aux autorités de libérer ces garçons et de laisser ce peuple tranquille. Ainsi, la victoire de la vérité fut acquise en Suède. Le témoignage de Bokiste. Dans la Review and Herald du 7 octobre 1890, on trouve un récit très intéressant sur la prédication des enfants, écrit par Ole Bokiste lui-même. Il dit « Pendant l'année 1843, un mouvement religieux s'est produit parmi les gens de la paroisse de Karlskoga, dans le comté d'Orebro. Les dirigeants de ce mouvement étaient des enfants et des jeunes hommes qui étaient appelés rapards. Ils prêchaient avec la puissance divine et proclamaient devant le peuple, avec beaucoup de fermeté, que l'heure du jugement de Dieu était venue. À l'automne de la même année, moi, Ole Bokiste, alors âgé de 15 ans, et un autre jeune homme, Eric Valbaum, 18 ans, devînmes tellement influencés par cette puissance invisible que nous ne pouvions en aucun cas y résister. Dès que nous fûmes saisis par cette puissance céleste, nous commençâmes à parler au peuple et à proclamer à haute voix que l'heure du jugement était venue, en les référant à Joël 2, versets 28 à 32, et Apocalypse 14, versets 6, 7. Enfant en vision. Les gens m'informèrent que ceux qui étaient influencés ainsi par cette puissance céleste perdaient la notion de tout ce qui les entourait. Ils recevaient en fait une vision de Dieu et parlaient avec une puissance qui avait un grand pouvoir de conviction. Ils disaient que ces petits-enfants, lorsqu'ils étaient sous cette influence, parlaient avec la force et la dignité d'hommes et de femmes adultes. Aussi, ceux qui voyaient cela en concluaient que c'était le Seigneur qui les utilisait prophétiquement pour prononcer ces vérités solennelles. L'auteur continue. Les gens se rassemblaient en grand nombre pour nous écouter, et nos réunions continuaient de jour comme de nuit, et un grand réveil religieux en fut le résultat. Jeunes et vieux furent touchés par l'Esprit de Dieu et imploraient la miséricorde du Seigneur, confessant leurs péchés devant Dieu et devant les hommes. Mais lorsque le prêtre de l'Église fut mis au courant de cela, de nombreux efforts furent faits pour nous faire taire et pour arrêter ainsi l'enthousiasme religieux. Mais tous les efforts étaient inutiles. On a ensuite demandé au shérif de nous arrêter, et pendant 6 semaines, ils firent une recherche infructueuse pour nous trouver dans la forêt, où nous nous étions enfuis nous réfugier. Enfin, cependant, nous avons été convoqués pour comparaître devant le pasteur de l'église. Notre nombre avait augmenté, de sorte que 40 jeunes, hommes et femmes, se sont présentés au presbytère, où nous avons été soumis à un long examen. Tous, sauf moi et Valbaum, furent autorisés à retourner chez eux. Mais nous avons été arrêtés, et le jour suivant nous avons été placés en détention dans la prison d'Orebro, où nous avons été mis avec des voleurs dans la cellule 14, comme si nous avions commis un grand crime. Le témoignage de la sœur de Bokiste. Le 22 septembre 1896, la sœur de Bokiste, âgée de 72 ans, a assisté à notre réunion à Orebro et nous a parlé de l'expérience de son frère, car elle fut témoin de sa flagellation, de son emprisonnement et de sa libération. Elle nous a chanté le cantique que Bokiste et Valbaum chantaient lorsqu'ils sont sortis de prison sur le pont surplombant le fossé qui entoure le château du XVIe siècle qui était utilisé en 1843 comme prison. La puissance du mouvement de 1843 accompagnait le témoignage et le chant du cantique. Voici le cantique traduit en français. Bokiste et Valbaum. Personne ne peut jamais atteindre le repos éternel, s'il n'est pas d'abord allé de l'avant avec une grande puissance. Personne ne peut jamais atteindre ce brillant objectif, à moins d'être d'abord allé de l'avant de tout cœur et de toute âme. Sa bataille urgente doit durer jusqu'à la fin. De cela seul, tous nos espoirs doivent dépendre. Étroite est la porte, et resserré le chemin. Mais la grâce et le choix sont gratuits pour tout un chacun. Mais tout dépend de notre insistance, de notre persévérance. Par cela seul, le port peut être atteint. Résiste fortement, oui, très fortement, ô mon âme, à tout ce qui s'interpose entre toi et ton objectif. combat contre toute entrave. Reste ferme, reste persévérant. Car la couronne est prête pour ceux qui vont de l'avant. Si tu veux goûter un jour aux joies du ciel, balaie tout obstacle, dépêche-toi. Laisse, laisse, oui, laisse toutes les ruses du monde. Que ta bannière de résistance soit toujours déployée. Quand le monde t'appelle, viens avec nous et marchons ensemble. N'obéis pas, ce chemin mène au malheur. Ce que le monde demande, refuse-le à tout prix. Si tu te conformes, chère âme, tu seras perdu. Pour l'amour du Christ, je t'offre ce conseil. Combat par la puissance de Dieu. Tel est de la couronne le prix. À chaque obstacle, offre une forte résistance. La couronne vaut la lutte, quelle que soit sa longueur. Le ciel de gloire vaut toute ta vie. Il vaut toutes tes prières, toute ton attente, tous tes combats. Aucun désappointement ne peut vivre dans ce royaume. La couronne vaut toutes les attentes que tu peux avoir. Et donc, réveille-toi et regarde vivement autour de toi. Prépare-toi à la sonnerie de la trompette du jugement. Car un habit de noces, pur, blanc et complet, sera requis de chaque âme suppliante qui cherche à entrer dans cette ville merveilleuse. Et donc, réveille-toi et prépare-toi. Tu ne peux pas jeter l'ancre sur cette terre céleste, ni entrer dans ce pays préparé d'avance, si ce n'est en ayant la vie de foi qui est offerte. Car l'Écriture très clairement dit cela, c'est la foi seule qui peut sauver le pécheur, et payer la rançon pour te sortir de la cruelle tombe. Alors écoute, mon cher, et lève-toi de ta triste chute, la grâce de Dieu est abondante et gratuite pour tous. Crois, repens-toi, et entends le Sauveur dire, ces magnifiques paroles, c'est ici le chemin. Le monde entier est invité, que tous viennent et prennent par la force une couronne dans cette maison. Le Seigneur est prêt, désireux d'accorder ce don à tous ceux qui suivront son chemin. Ne t'épargne pas la lutte, mais persévère, et bientôt, très bientôt, la victoire sera gagnée. La main de Dieu cherche ton âme, il te donnera du repos. Jésus frappe à la porte, à la recherche de ton bonheur. Réveille-toi, c'est l'Esprit de Dieu qui dérange ton sommeil. Seuls ceux qui montent la garde seront sauvés. Le garçon prédicateur de Karlskoga. Un homme d'Orebro m'a raconté un incident survenu à Karlskoga, où il résidait en 1843. Il dit « Un petit garçon de 8 ans, qui n'avait jamais appris à lire l'alphabet, a commencé à prêcher le message, citant de nombreux passages des Écritures. Les gens disaient « Ce garçon est juste rempli de la Bible ». Cela s'est produit après que le roi Oscar ait parlé en faveur des persécutés, et donc le prêtre de ce lieu ne pouvait pas amener le garçon devant la justice pour arrêter l'œuvre. Mais il dit aux gens de lui amener le garçon, et il l'exposerait, et leur montrerait son ignorance de la Bible. Devant la foule, le prêtre ouvrit son livre de cantiques et demanda au garçon de le lui lire. Le garçon a répondu « Je ne peux pas lire ». Mais tournant le dos au prêtre, il chanta l'hymne correctement du premier au dernier verset, alors que le prêtre, pendant ce temps-là, regardait le livre avec étonnement. Le prêtre dit à l'enfant « Tu sembles tout savoir ?» Le garçon répondit « Non, nous ne sommes pas toujours autorisés de dire tout ce que nous savons. » Le prêtre a ensuite ouvert le Nouveau Testament et dit au garçon « Lis cela pour moi. » Le garçon répondit « Je ne peux pas lire. » Le prêtre demanda « Que connais-tu de la Bible alors ?» Il répondit « Je sais où il y a un texte qui contient 15 fois le mot « et ». » Le prêtre dit « Non, il n'y a pas de tel passage dans la Bible. » Le garçon dit « Lisez pour moi Apocalypse 18, verset 13, dans la version Darby. » « Oui, » dit le prêtre. Comme il lisait, les gens comptaient, et c'est bien vrai que le mot « et » y est 15 fois, et parmi les 15 fois, on lit des esclaves et des âmes d'hommes. Le peuple cria « Là, là !» Le garçon en sait plus au sujet de la Bible que le prêtre. Très peiné, le prêtre a laissé tomber le sujet et laissa le peuple tranquille par la suite. Ainsi, le Seigneur confirme sa parole de la bouche des enfants et de cette formidable manière a apporté sa vérité aux oreilles des gens dont les lois interdisaient la prédication de toute doctrine autre que celle de la religion établie. Don de l'esprit associé au message. Ce ne fut pas seulement en Suède que le Seigneur, dans le contexte du mouvement adventiste, parla à son peuple par les dons de son esprit. En Écosse, en Angleterre et aussi en Amérique, le Seigneur a instruit son peuple par des révélations spéciales. Vision de William Foy. En 1842, vivait à Boston, Massachusetts, un homme bien éduqué du nom de William Foy, qui était un orateur de talent. Il était baptiste, mais se préparait à prendre les ordres comme ministre épiscopal. Dans sa grâce, le Seigneur lui a donné deux visions pendant l'année 1842, l'une le 18 janvier, l'autre le 4 février. Ces visions contenaient la preuve claire d'être de véritables manifestations de l'Esprit de Dieu. Il fut invité à prendre la parole du haut de la chaire, non seulement par les épiscopaliens, mais aussi par les baptistes et par d'autres confessions. Quand il parlait, il portait toujours l'habit de pasteur, tel que les ministres de cette église portent dans leur service. Les visions de M. Foy étaient sur la proximité de la venue du Christ, les voyages du peuple de Dieu vers la cité céleste, la nouvelle terre, et la gloire des rachetés. Ayant une bonne maîtrise de la langue, d'excellents pouvoirs descriptifs, il faisait sensation partout où il allait. Sur invitation, il allait de ville en ville pour raconter les choses merveilleuses qu'il avait vues. Et, afin d'accueillir les vastes foules qui se rassemblaient pour l'écouter, on réservait de grandes salles dans lesquelles il racontait à des milliers de personnes ce qu'il avait vu du monde céleste, la beauté de la Nouvelle Jérusalem et des armées d'anges. Lorsqu'il parlait de l'amour tendre et plein de compassion du Christ pour les pauvres pécheurs, il exhortait les inconvertis à chercher Dieu, et des dizaines répondaient à ses tendres supplications. La vision des trois plateformes. Son œuvre continua jusqu'en 1844, près de la fin des 2300 jours. Alors, il eut le privilège de recevoir une autre manifestation de l'Esprit-Saint, une troisième vision, qu'il ne comprit pas. Dans cette vision, il vit le pèlerinage du peuple de Dieu jusqu'à la cité céleste. Il vit une grande plateforme, ou marche, sur laquelle des multitudes de gens étaient réunis. Parfois, quelques-uns tombaient de cette plateforme, et on disait « il a apostasié ». Puis, il vit les gens monter sur une deuxième marche, ou plateforme, et certains aussi tombaient de la plateforme, hors de vue. Enfin, une troisième plateforme est apparue, qui s'étendait jusqu'aux portes de la Sainte Cité. Une grande compagnie s'est unie à ceux qui étaient montés sur cette plateforme. Comme il s'attendait à ce que le Seigneur Jésus vienne dans très peu de temps, il n'a pas réalisé qu'un troisième message devait suivre les premiers et deuxièmes messages d'Apocalypse 14. Par conséquent, la vision lui était incompréhensible et il cessa de parler en public. Après la fin de la période prophétique, pendant l'année 1845, il entendit quelqu'un d'autre raconter la même vision, avec l'explication que les premiers et deuxièmes messages avaient été donnés et qu'un troisième devait suivre. Peu après, M. Foy tomba malade et mourut. Avec de telles manifestations de la puissance de Dieu liées à l'annonce de sa venue, à la porte, et avec la joie de milliers de personnes qui se détournaient du péché pour servir le Seigneur et attendre sa venue, les gens étaient d'autant plus assurés que c'était en effet le message du Seigneur pour le monde. Mais le 21 mars 1844 arriva, passa, et le Seigneur ne vint pas. La conviction des gens consacrés et réfléchis, cependant, était qu'ils avaient agi en harmonie avec l'Esprit du Seigneur, et qu'en temps voulu, tout serait rendu clair.